Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue. Je m'appelle Guy, je suis un ultramangeur compulsif. Et puis, c'est moi qui vais débuter le premier partage de la journée. Alors, juste pour vous assurer, parce qu'il y a eu un changement de salle et c'est des étapes qui sont à côté. Ici, c'est les partages, pour être certain que vous ne soyez pas déçus de ce que vous allez entendre. Alors, oui, ça a l'air d'être correct, oui. C'est beau, vous m'entendez bien? Je sais pas si je vais me lever. C'est pas excellent. Et puis, je vais partir mon chronomètre parce que suite aux 30 minutes de partage, il y aura 15 minutes où vous serez invité à poser votre question. En lien avec ma démarche vers le rétablissement, mes actions journalières, mon cheminement avec le programme des 12 étapes, des ultramangeurs anonymes. Soyez avisés que le partage sera enregistré. Nous pourrons donc entendre votre question sur les enregistrements. Ces enregistrements vont être diffusés sur le site web des ultramangeurs anonymes. Et puis, on a aussi un podcast qui est disponible sur la plateforme de Apple Store. Et puis, pour le bien commun, nous vous demandons de restreindre le va-et-vient pendant le partage. Et on vous demande de respecter la consigne qu'il est interdit de manger quoi que ce soit dans les salles et de boire uniquement de l'eau, du café, du thé ou de la tisane. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je me suis préparé un petit texte. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, j'ai fait une exception. Et puis, moi, je suis en progression avec le programme des 12 étapes. Ça fait depuis 10 ans à peu près. Et puis, j'aimerais en profiter pour remercier les membres qui ont organisé le congrès. C'est une occasion exceptionnelle pour des ultramangeurs de pouvoir se réunir. Et c'est un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui pour moi. Je me souviens que je me levais la nuit, au début, dans les premières années chez OA, puis j'écoutais les podcasts de l'intergroupe de Los Angeles au lieu d'outre-manger, puis c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup. La force du « nous », de la fraternité dans mes oreilles, c'est ce que j'avais quand j'écoutais ça. Puis de pouvoir l'enregistrer aujourd'hui, c'est aussi un privilège pour les personnes qui pourront entendre cette force du « nous » qui sera dans leurs oreilles à ce moment-là, comme s'ils étaient ici, assis avec nous aujourd'hui. J'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans en 2018. Je suis avec la même femme depuis 23 ans maintenant. Ma conjointe est un cordon bleu accompli chez nous. Les repas de Noël, ça se prépare des mois à l'avance. Et puis, elle et sa mère vont préparer des recettes. Ils vont travailler fort. Ils font ça avec amour et passion. Alors, j'ai le privilège de faire la vaisselle. Et puis, j'en fais beaucoup. Dans la joie et l'allégresse. Et puis, j'ai deux enfants. J'ai un grand garçon de 21 ans, puis ma fille a eu 18 ans au mois d'avril. Et je suis troisième d'une fratrie de trois garçons. Au grand désespoir de mon père, je suis le dernier. Et puis, il aurait tellement voulu avoir une fille. Malheureusement, c'est un garçon qu'il y a eu. Mon papa est ingénieur, ma mère est infirmière. Et c'est un couple dont l'amour était hors du commun. Ils sont aimés pendant 51 ans jusqu'au décès de mon père. Puis un jour, il y a un de mes amis qui me dit « C'est vraiment exceptionnel l'amour qu'il y a entre tes parents. Ma mère allait s'asseoir sur mon père, puis se donner des petits becs. » Puis il y avait beaucoup de démonstrations d'amour chez nous. Il y a des chicanes, je ne me souviens pas qu'il y en a eu, ou du moins s'il y en a eu, ça ne m'a pas marqué. Mais tout ça pour vous dire que je viens d'un milieu qui est très où l'amour était très présent. Il y avait beaucoup aussi de petits Jésus chez nous. Mes parents allaient à la messe deux fois le dimanche, mais pas à la messe, c'est-à-dire qu'ils allaient à la messe le dimanche, puis le soir, ils allaient à des réunions de prière. Alors, c'était un environnement où est-ce que c'était très, très chrétien, catholique. Et puis, on a reçu, mes frères et moi, une bonne éducation. Moi, j'ai un diplôme universitaire. Je pratique une profession libérale. Et puis, j'ai été choyé par la vie, autant d'un point de vue matériel que d'un point de vue mental, émotif aussi. Chez nous, il n'y a pas de d'abus sexuels ou d'abus physiques, etc. Mais il n'en demeure pas moins que il y a un défaut dans ce programme-là. Tout à l'heure, Francine parlait d'hyperphage. Bien, moi, j'ai eu récemment un diagnostic d'hyperphagie boulimique. Puis, si vous me permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Puis, je me suis permis de sortir une définition que j'ai trouvée sur Internet. L'hyperphagie boulimique, ça a été diagnostiqué en allant chez mon médecin. Je me suis décidé à... j'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille. Puis, ce que j'ai trouvé sur Internet à propos de l'hyperphagie boulimique, c'est que c'est un trouble de santé mentale qui se caractérise par la présence de compulsions alimentaires, de rage incontrôlable, de consommation de nourriture, mais sans méthode compensatoire, comme l'apport calorique excessif de crise de boulimie n'est pas compensé par des vomissements auto-provoqués, le jeûne, l'abus de laxatifs ou la pratique excessive d'activité physique, les personnes qui en souffrent sont souvent en surpoids et obèses. Les épisodes de compulsion sont accompagnés d'un sentiment de perte de contrôle. À la suite de ces épisodes, la personne atteinte d'hyperphagie vit de la culpabilité, de la honte, des sentiments de remords et parfois même du dégoût envers elle-même. Plusieurs complications sur le plan social, physique, psychologique peuvent être reliées à l'hyperphagie. Par exemple, la personne peut développer de l'anxiété, de la dépression, de l'obésité, de la distension abdominale, du diabète, vivre de l'isolement social ainsi qu'une grande préoccupation concernant son image corporelle. Il y a les statistiques, il y a à peu près 192 000 Québécois qui seraient atteints d'hyperphagie boulimique. Ici à Montréal, on parle de 3,8 % de la population et de ces personnes-là, il y a 40 % qui seraient des hommes. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la maladie, c'était pas qu'il y a pas longtemps et puis... moi, mes enfants, quand ils recevaient des chocolats à Pâques, là, ils sont chanceux parce qu'ils ont 6 grands-parents. Fait que des poules, des nounours, des lapins, etc., il y en avait à profusion. Puis pour éviter qu'ils mangent tout leur chocolat dans la première demi-heure, bon, on les mettait sur le dessus d'une armoire. Et j'ai souvenir d'être grimpé sur la chaise en train d'empiffrer le chocolat des enfants dans la plus parfaite cachette de ma conjointe, bien sûr, qui savait de toute façon que le chocolat, il s'en allait pas tout seul et que les enfants étaient pas assez grands pour l'atteindre. Pour moi, la maladie, c'est attendre que ma conjointe aille se coucher pour aller m'empiffrer. D'être au restaurant et être obsédé, pas par ce que j'ai dans mon assiette, mais par les restants que les enfants vont laisser dans les leurs que je vais pouvoir manger. Trouver n'importe quel prétexte pour sortir de la maison pour aller chez Harvey's, McDo, puis limite là, toutes sortes de malbouffes possibles et imaginables. Aller au cinéma avec juste l'idée en tête de pouvoir aller m'empiffrer dans des friandises, dans du popcorn, puis de la liqueur, etc. Manger pas juste de la crème glacée congelée, manger toutes sortes d'affaires qui sortent directement du congélateur parce que là, j'ai tellement faim, là, puis là, ça presse, c'est tout de suite qu'il faut que je mange. Là. Me lever après avoir outre-mangé pour aller vomir, pas de façon constante ou fréquente, mais parce que j'ai tellement mangé puis je me sens tellement mal que la seule soulagement, là, je vais le trouver en vomissant. Puis après ça, je vais être tellement mal que je ne peux pas me coucher parce que la tête veut m'éclater en deux. Je ne peux pas rester assis parce que ça tourne, j'ai des étourdissements. Fait que je suis comme entre assis puis couché, là, puis la seule affaire que je peux faire, c'est attendre que ça passe. Moi, ça fait un bout de temps que la maladie sévit dans ma vie. Malgré le parcours un peu idyllique comme enfant que j'ai eu, des parents qui s'aimaient, une belle éducation, pas de problème d'abus de quelque façon que ce soit, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. J'ai découvert dans la vingtaine que j'étais dyslexique. Alors, j'avais beaucoup de difficultés à apprendre à lire, à écrire. Ça a été un parcours assez pénible, d'autant plus que aujourd'hui, ma fille qui est dyslexique aussi, parce que c'est héréditaire, elle avait un plan d'intervention, puis un support, puis c'est beaucoup plus libéral maintenant par rapport à ça, et puis on est moins... Les enfants, en tout cas, j'ai l'impression que les enfants sont moins ostracisés, sont mieux encadrés par rapport à ça, mais c'était pas mon cas. Et j'ai vécu beaucoup d'humiliation à l'école de toutes sortes de façons. Par exemple, dans les cours d'éducation physique, quand c'était la sélection des équipes de n'importe quel sport, ben, j'étais systématiquement le dernier choisi quand j'étais choisi, parce que des fois, j'étais même pas choisi. Et puis, c'est quelque chose qui a continué, parce que comme j'avais la difficulté... À l'école, je réussissais pas bien, j'étais dans les cancres. Hein. Ça prenait 5 ans pour passer à l'époque, puis j'avais 51. Et de fil en aiguille, j'ai fini par croire que j'étais pas intelligent et que j'ai trouvé refuge dans la nourriture pour pouvoir compenser les difficultés que je pouvais avoir à l'école, entre autres. Je me souviens de rentrer à la maison après l'école, puis ma mère, elle faisait son pain, et puis de me faire des beurrés de beurre de peanut, qui était chaude encore, là, puis de m'engouffrer ça, puis de pousser sur la nourriture, puis de me dépêcher avant que ma mère arrive, parce que je me faisais pogner, là, c'était pas drôle. À 8 ans, ma mère m'a amené chez les Weight Watchers, et puis j'ai goûté au plaisir, au supplice de la balance, dépendamment de, comme mentionnait Francine, hein, t'es un champion si t'as perdu 2 livres, puis t'es un moins que rien si t'en as repris 2, et puis après ça, ça a été une suite ininterrompue de régimes, Scarsdale, Montignac, la soupe aux choux, les protéines, les kills, Nutribar, j'ai passé par toute la panoplie à ce moment-là. Perdu 25 livres, repris 30 livres, perdu 30 livres, repris 40 livres. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait le yo-yo, hein, l'accordéon, on est gros, on est petit, on est gros, on est petit, puis et ainsi de suite. J'ai toujours été profondément convaincu que tous mes problèmes seraient réglés si j'avais un corps svelte et mince, et pour réaliser que finalement, ben c'est pas ça. Fait que quand je suis arrivé à quarantaine, j'avais des sérieux problèmes de santé. Je carburais avec des Tylenol à peu près aux 4 heures pour pouvoir passer ma journée. J'étais probablement avec sérieux problèmes de diabète. J'avais trop la chaîne pour aller chez le médecin, de peur qu'on me dise qu'effectivement je fais du diabète. Fait que toujours est-il qu'après un congrès comme aujourd'hui, j'ai vu dans le journal du métro... C'était en première page et on parlait des OA. J'avais jamais entendu parler de ça, des OA. Fait que je suis allé voir sur le site internet, j'ai lu les étapes, j'ai regardé ça. Je connaissais un peu le mouvement des 12 étapes des AA, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais j'avais jamais entendu parler de ça pour des problèmes reliés à l'obésité. Fait que... J'ai pris mon courage à deux mains, puis je me suis rendu sur la rue Beaubien, au 312 Beaubien, sur l'heure du midi pour mon premier meeting. Arrivé là, à reculons, parce qu'un organisme qui ne charge rien pour perdre du poids, là, il y avait quelque chose de... il y avait un arnaque là-dedans, quelque chose qui ne marchait pas, fait que... J'étais très, très critique quand je me suis présenté là, puis à l'accueil, une dame est venue me porter l'enveloppe du nouveau, et puis elle me dit, en me confiant l'enveloppe, viens au moins 3 fois avant de prendre ta décision, savoir si c'est pour toi, savoir si tu souhaites venir et revenir. Alors, là, ça commence, cette histoire-là, là.
Bonjour, je m'appelle une telle, je suis ultra-mangeuse compulsive. Puis là, réponds tout en cœur. Bonjour, une telle.
Là, je me dis, c'est un peu bizarre, ça, là. Et puis, pourquoi qu'ils font ça? En tout cas, toujours est-il que vous continuez avec la prière, la sérénité, les étapes, la méthode, etc. Puis là, arrive le partage. Et... Ça m'a vraiment scié deux jambes. Parce qu'au partage, la personne a exprimé exactement quelque chose à laquelle je m'identifiais. C'était quelque chose de très semblable à ce que je vivais à ce moment-là. Et puis, aussitôt que le meeting est fini, hein, je me suis dépêché à partir pour parler à la personne. Et ça a cheminé dans ma tête pendant ce temps-là. Puis, j'ai décidé de retourner, finalement. Elle m'avait dit, viens au moins trois fois avant. Fait que je vais m'essayer une deuxième fois. Fait que je m'assois, puis ça recommence. Bonjour, je m'appelle un tel. Bonjour, un tel. Tout le monde répond à cœur. Là, tu te dis, c'est un peu weird, ça, là. La prière, la sérénité. Ils l'ont dit la semaine passée. La méthode, voyons, peut-être. C'est pas juste des outre-mangeurs. Je pense qu'ils sont amnésiques aussi. Hein. Ils s'en souviennent pas. Ils répètent encore la même affaire. Tu dis, ben, qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc, là. T'es un homme accompli. T'as réussi. T'as une belle carrière. T'as une belle famille. Qu'est-ce que tu fais là? Ça après ton camp, d'ici. Puis j'avais toujours cette petite voix-là qui me disait, viens au moins trois fois avant. Et puis, finalement, il est arrivé le clou du spectacle. Il y avait juste l'aujourd'hui qui changeait. Là. À part de ça, là, c'était toute la même affaire. Mais le clou du spectacle, c'était encore le partage qu'il y a eu. Puis encore une fois, la personne qui a partagé a partagé quelque chose qui était vécu, qui est venu me chercher. C'était la force du « nous », dans le sens qu'il y avait une compassion, un amour. Il y avait quelque chose, une énergie qui se dégageait dans ce partage-là. Pas juste dans le partage, dans la réunion elle-même. Les gens qui étaient là étaient remplis d'une... J'ai rarement été bien accueilli comme j'ai été accueilli chez les Oahu. Fait que toujours est-il que c'est cette force du « nous » qui est venue me chercher. Et pas de jugement, pas de compétition à savoir qui c'est qui a perdu le plus de poids cette semaine, mais vraiment de la compassion, de la compréhension et de la sollicitude entre êtres humains. L'accueil exceptionnel que j'ai reçu, je pense que c'est quelque chose qui est très important chez les OA. Puis pourquoi c'est important comme ça? C'est parce que tous les membres OA ont un jour été accueillis, ont un jour entré pour la première fois dans une salle et constaté comment c'est important l'accueil, de bien accueillir les nouveaux. Parce que quand tu arrives, tu as du désespoir, tu te sens dans la honte, tu te sens dans probablement ce que de plus bas qu'un être humain peut vibrer. Puis ce que tu viens chercher dans une salle de réunion, dans un meeting chez les OA, dans le programme, c'est la possibilité de te sortir de ça, de t'élever au-dessus de ce que tu vis par rapport à la nourriture. J'ai réalisé que la force du « nous », c'est de m'identifier comme outre-mangeur. Parce que c'est sûr que, je fais ça, ça a l'air un peu rigolo, là, le « bonjour, je m'appelle Guy, je suis outre-mangeur », puis que tout le monde te réponde en cœur. Bien, l'idée, c'est de justement t'identifier à cette faculté là, d'être un outre-mangeur, parce que la maladie, elle fait aucune discrimination. Hein? Tu peux être intelligent, tu peux être nono, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être une vedette, tu peux être un nobody. La maladie, elle s'attaque égale à tout le monde. Puis c'est pour ça que chez les OA, tout le monde est un outre-mangeur. Et moi, je m'identifie beaucoup en étant hyperphagique, boulimique, à un outre-mangeur, parce que c'est quelque chose que j'ai plus loin que je peux me souvenir, là, au moins depuis l'âge de 8 ans, que je traîne avec moi, qui fait partie de mon bagage. Ça prend une bonne dose d'humilité pour reconnaître qu'on est un outre-mangeur. Ça prend, dans la mesure où c'est pas glamour, hein? Je dis pas « moi, je suis outre-mangeur », etc. Là, puis, justement, cette humilité-là nous permet de reconnaître que je peux pas m'en sortir tout seul. C'est ça la réalité. Puis chez les OA, on m'offre une façon de pouvoir dealer avec ça. Dans les 12 étapes, vous remarquerez, vous l'avez dans votre ticket qu'on vous a donné. Les 12 étapes, il n'y a pas beaucoup de jeu là-dedans. C'est nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Perdre la maîtrise de notre vie, là, je trouvais ça charrier un peu, là, mais je me souvenais d'être debout sur ma chaise en train de manger le chocolat des enfants. Je me disais, ouais, c'est vrai que la maîtrise, de, en tout cas, au niveau de la nourriture, c'est pas évident. Hein? Et puis, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Nous avons décidé de confier notre volonté, notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Nous avons déprocédé, nous avons avoué, nous étions tout à fait prêts, nous, etc. Puis là, j'arrive à la 11e. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. Lui demandant seulement de connaître sa volonté et de nous donner la force de l'exécuter. Ma conception de Dieu, c'est pas quelque chose qui est dans un paradis lointain. Pour moi, ma puissance supérieure, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'être humain que je suis. Cette force intérieure-là se retrouve dans chaque être humain. Il y en a qui le cachent bien, peut-être plus que d'autres, là, du moins qu'ils ne l'ont peut-être pas trouvé eux-mêmes, mais c'est sûr que tout le monde en a. Et ce qui m'a attiré beaucoup chez les OA, c'est cet aspect spirituel, parce qu'on vit dans une société où la spiritualité, c'est difficile d'en discuter de façon libre. Puis chez les OA, ça fait partie intrinsèque du programme des 12 étapes. Moi, je suis convaincu que je suis un être qui a un corps physique. Je ne suis pas un être avec un corps physique qui a une expérience spirituelle. Je suis plutôt un être spirituel qui a une expérience dans un corps physique. Puis, sur la planète Terre, il y a une expérience qui se fait où est-ce que chaque être humain a son libre arbitre, puis il a le choix d'écouter son instinct, faire la volonté de sa puissance supérieure, ou encore d'être l'esclave de son ego. Et puis, dans le fond, c'est ce que je comprends que chez les OA, j'ai trouvé, c'est ça, le choix entre écouter mon instinct, écouter ma force intérieure, ou de faire à ma tête, puis de manger ce que je veux, quand je veux, où je veux, aux horaires que je veux. Je passe à la 12e étape. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, je check mon temps parce que je ne voudrais pas me dépasser. Ayant connu le réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons essayé de transmettre ce message à d'autres automangeurs compulsifs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Bien, mettre le programme en pratique dans tous les domaines de ma vie, c'est quelque chose que je fais, entre autres, grâce aux outils, le plan alimentaire. Hein. Le plan alimentaire, ça fait partie aussi de la force du nous, dans le sens qu'il y a à peu près autant de plans alimentaires chez les OA qu'il peut y avoir de membres. Et c'est quelque chose que tu développes toi-même. Moi, j'ai consulté une nutritionniste, je consulte une présentement. Puis c'est quelque chose qui est fait sur mesure, selon mes besoins. Il y a le marrainage, le parrainage. C'est sûr que profiter de l'expérience de quelqu'un qui a déjà plusieurs années de mouvement, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis c'est autant bénéfique pour la personne qui marraine que la personne, que le filleul ou la filleule qui reçoit ses conseils. Parce que le cheminement, ben, c'est une maladie d'isolement. Hein? Et en s'isolant, c'est la meilleure façon d'éviter justement de tomber dans la maladie puis l'isolement, c'est de pouvoir partager puis d'échanger avec d'autres membres, dont un parrain ou une marraine. Les réunions, j'en ai parlé, C'est un élément super important. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage dans des salles de meeting. C'est les appels téléphoniques, on en a parlé, mais il y a aussi les courriels, les textos, les réseaux sociaux. L'écriture, c'est un peu une forme de canalisation quand je m'assois pour écrire quelque chose qui vient obséder mon esprit. C'est mon instinct me parle à travers mon écriture. La littérature, je vais m'asseoir puis je vais lire, que ce soit sur les 12 étapes ou je vais lire des partages, c'est comme si j'étais assis à écouter la personne en train de parler. L'anonymat, on a vu que l'anonymat, c'est quelque chose qui permet de que tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de supérieur. Il y a un point commun entre tous les gens chez les OA, c'est la maladie, c'est d'être outre-mangeur. Et puis, le service. Le service, pour moi, c'est que ce soit dans les réunions, que ce soit à l'accueil, faire le café, défaire le café, être au secrétariat, à l'animation, à la littérature. C'est tous des postes que j'ai occupés qui me permettaient de dire à chaque semaine, j'ai une bonne raison d'y aller parce que j'ai une tâche à accomplir. Après ça, je suis devenu représentant de mon groupe à l'intergroupe, puis je suis devenu aussi membre du comité de service. Présentement, je suis coordonnateur aux publications. Et comme tantôt, Francine a mentionné, les publications, c'est partout dans la francophonie maintenant. On a mis sur pied, j'ai déjà occupé ce poste-là en 2015-2017, on avait mis sur pied une boutique électronique, ce qui n'existait pas. Je n'avais pas d'expérience là-dedans, mais j'ai acquis de l'expérience. Puis c'est surtout que quand je suis là-dedans, ben je ne suis pas dans la compulsion. Je pense pas à compulser. Je donne de mon temps sans compter, sans espoir de recevoir, d'avoir une rétribution pour qu'est-ce que j'ai investi comme temps. J'ai un sentiment de plénitude quand je fais mon service parce que j'ai l'impression, c'est pas juste une impression, j'ai ce sentiment de savoir que je fais la bonne affaire, je fais quelque chose d'utile, je fais quelque chose qui est en connexion avec l'être profond qui est ma force intérieure dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression d'être au diapason de ce pourquoi je suis venu sur cette planète Terre. Raconter une petite histoire. L'autre jour, j'étais au métro Jean Talon, puis un grand escalateur qui descend, puis c'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de gens. Il y a une jeune femme qui arrive, qui donne un lunch à un itinérant, une personne qui a une pancarte marquée « J'ai faim » avec un pot pour récolter du change. Puis cette dame-là lui donne le lunch. Le jeune homme est tout à fait poli, aurait probablement aimé mieux avoir de l'argent que quelque chose à manger, mais vous exprimez comment cette personne, cette jeune femme qui montait dans l'escalateur après et passait à côté de moi, c'est comme si on avait pu toucher le sentiment de compassion qu'elle venait d'exprimer. Elle venait de donner quelque chose et elle rayonnait. Elle rayonnait carrément. C'est comme si on avait pu y toucher. Quand elle passait à côté de moi, j'ai senti quelque chose. Mais ce sentiment-là, c'est un peu ce qu'on ressent dans les salles de réunion. Puis c'est ce qui permet de dire que souvent, quand je suis rentré dans une salle de réunion, j'avais le cacaba. J'étais pas dans une bonne énergie. Puis sortir après la réunion, dire « Ah, je suis venu charger ma batterie un peu. Je me sens plus fort, je me sens capable. Je vais être capable de continuer ce soir que de rester dans l'abstinence puis de continuer avec mon plan alimentaire. » Chez les OA, je choisis de m'aimer suffisamment pour me donner de l'amour, d'aimer l'enveloppe corporelle que j'ai. C'est plate, c'est la seule que j'ai, puis c'est celle-là que j'ai. Puis il faut que je vive avec. Et je me dois de... J'apprends à l'aimer. Parce que c'est ce qui me permet, c'est le véhicule qui permet justement à cette force intérieure-là de continuer et de poursuivre son chemin. Pour moi, d'être membre OA, c'est d'être à l'écoute de mon corps. Parce que mon instinct, finalement, avec toute l'expérience d'outre-mangeur que j'ai, je sais quoi manger, je sais quand manger, mais c'est important de ne pas juste écouter mon ego, mais d'être à l'écoute de cette puissance supérieure. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Puis du moment que je suis dans cette ligne-là, je ne peux pas faire fausse route. Il me reste un 30 secondes, puis j'aimerais vous partager quelque chose. Ça a été mon coup de cœur dans les dépliants. C'est un petit dépliant qui s'appelle « Si Dieu parlait au roi ». Et puis, c'est un cadeau porteur de rétablissement. Ni aux savants, ni aux hommes d'État, ni aux épouses, ni aux mères, pas même à mes chefs spirituels, ai-je donné le cadeau du pouvoir de guérir les autres outre-mangeurs que je vous confie à vous. Ce cadeau ne doit pas être utilisé égoïstement. Il signifie une sérieuse responsabilité. Vous avez été choisi parce que vous avez un cœur compréhensif, puisque votre grande expérience d'outre-mangeur compulsif vous a rendu, devrait vous rendre, humblement vigilant face aux cris de détresse provenant des cœurs solitaires des outre-mangeurs de partout. La richesse d'une organisation matérielle, lorsqu'elle fait un inventaire, se mesure à ce qui lui reste. Dans la vôtre, lorsque vous faites votre inventaire moral, elle se mesure à ce que vous avez donné. Je vous souhaite sincèrement de trouver comme moi un programme qui donne des ailes de la liberté, la liberté de la compulsion alimentaire. Je m'appelle Guy, je suis un outre-mangeur compulsif. Je vous remercie. Merci. Alors, juste pour une petite question d'intendance, comme l'enregistrement, on n'entendra peut-être pas toutes les questions. Je vais répéter la question avant de pouvoir y répondre. Je vous invite, si vous avez des questions. Oui, je vous en prie.
Je m'appelle Serge, je suis un micro-mangeur compulsif.
Bonjour Serge.
Merci Guy pour ton partage. Je voulais savoir pour toi, dans le concret, qu'est-ce que tu fais qui réalise la force du nous?
Dans le concret, c'est sûr que la force du nous, vous avez parlé de la force intérieure, vous avez parlé du fait que des fois j'ai l'impression que c'est comme une illusion tout ça. La troisième dimension, le matériel, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres, qu'il y a toute une panoplie qui vient en dehors de ça. Pour moi, la force du nous, c'est la méditation, entre autres. Ou est-ce que dans mes actions quotidiennes, mes journées commencent avec la méditation. Des fois, c'est 10 minutes, des fois, c'est 30 minutes, des fois, ça peut être plus. C'est de pouvoir maintenir le contact conscient avec ma puissance supérieure, qui est un défi de taille, parce que n'importe quel petit pépin va venir faire en sorte que je vais tomber dans l'ego, puis que je vais oublier finalement que je suis cet être spirituel dans le matériel dont je parlais tout à l'heure. Fait que c'est sûrement deux éléments. C'est sûr que j'ai un plan alimentaire aussi qui me permet de me rappeler que je suis un outre-mangeur et que je ne mange pas, je m'alimente. Et que je dois le faire de façon très, très précise. J'ai pas une perte de poids à tout casser, mais en tant qu'hyperphagique boulimique, je suis pas non plus dans une obésité morbide, etc., où je pourrais être si j'étais pas ici avec les rois. Oui? Bonjour, Marie-Pierre.
Est-ce que tu as vécu des recherches que ta mère ne marcherait pas?
Merci Marie-Pierre, j'apprécie beaucoup la question qui est de si j'ai fait des rechutes et puis qu'est-ce que j'ai pris en considération. Effectivement, j'ai subi une période de rechute, c'est quand même assez récent, ça fait peut-être à l'été dernier. J'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil, entre autres. J'étais atteint de fatigue incommensurable. Et puis, ça, entre autres, avec d'autres choses. J'ai fait une ouaïte aiguë. Là. J'étais écœuré là, de toutes ces petites réunions, puis du tétage, puis ils envoient les traditions, puis des empêcheurs de tourner en rond, et ainsi de suite. Et j'ai commencé à faire moins de meetings, puis etc. Je me suis mis à prendre du poids de façon substantielle. J'avais plus de linge qui me faisait sur le dos. J'étais vraiment dans ce qu'on parlait tout à l'heure, là, de la honte, et puis dans les... et pour réaliser finalement que comment est-ce que je regardais, puis de voir quand j'étais impliqué dans le programme, quand je faisais mes étapes, quand je faisais mon plan alimentaire, quand je faisais du sport de façon régulière, etc., comment je me sentais bien finalement. J'ai l'impression qu'il a fallu que je sorte au haut de ma vie pour réaliser à quel point c'était important pour moi de continuer et de persévérer dans le programme. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut tout simplement mettre un terme. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.